qui est de l'adorer, pour être plus précis, pour concrétiser le monothéisme, c'est-à-dire louer toute forme d'adoration à lui et à personne d'autre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépêché des envoyés et a fait descendre des livres. Concrétiser cette adoration dans laquelle les gens ont été créés. L'adoration, ça inclut une différence. Différentes formes, telles que la prière, telles que de promettre à Allah de réaliser pour lui telle ou telle chose, ou autre forme d'adoration. Et cette adoration repose des piliers. Le premier de ces piliers est le fait d'être entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier est le fait que cette adoration soit animée dans un amour total et complet. Et le troisième pilier est que cette adoration doit reposer sur la peur et l'espoir en même temps. Pour que cette adoration soit acceptée, il faut qu'elle réponde à deux conditions. La première, c'est que l'intention dans laquelle l'adoration a été réalisée soit pure. C'est-à-dire que si une personne adore un autre Allah en réalisant cette adoration, elle n'est tout simplement pas acceptée. Ou si il réalise cette adoration pour Allah et pour quelqu'un d'autre, avec lui, cette adoration également sera rejetée. C'est la première condition. Et si cette adoration est vouée à un autre, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, la deuxième condition est peut-être en conformité avec la religion. Si cette adoration est vouée à un autre qu'Allah, c'est ce qu'on appelle ash-shirk, le polythéisme. Et ce péché est tellement grave qu'il n'est pas pardonné. Et celui qui le commet est privé du paradis. Et sa destination sera l'enfer. Est-ce que il peut y avoir du polythéisme même après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Le prophète a même annoncé que ce polythéisme allait se dérouler dans la communauté. Et il a annoncé que les femmes de Banu Daws allaient se bousculer autour de Dhul Khalasan, qui est une idole, qui a été réadoré, adoré à nouveau après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a annoncé, et qu'il a été détruit en 1350 de l'Égypte, c'est-à-dire il y a environ 400 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et il suffit d'observer l'état dans lequel se trouve le musulman pour se voir qu'il y a différentes manifestations du polythéisme, comme par exemple le fait d'invoquer un autre qu'Allah. Demander à un autre qu'Allah le fait d'obtenir la subsistance, voire même le fait d'entrer au paradis, d'être protégé de l'enfer. Il y a de nombreux textes qui interdisent le fait d'invoquer, de demander à un autre qu'Allah ce que le seul est devenu. Par exemple, celui où Allah a dit Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in, qui signifie donc que nous adorons Allah et seulement lui que nous demandons son aide et seulement ainsi. Est-ce que les musulmans, est-ce que la nation musulmane est à l'abri du polythéisme? La réponse est non. Car il faudra bien lui-même demander protection à Allah contre le polythéisme pour lui et sa descendance et être craigné et redouté de commettre le polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce qu'il redoute le plus sa communauté et le polythéisme subtil. Et il a appris à Abu Bakr, de demander à Allah pardon pour toute forme de polythéisme commis sans connaissance de cause, et de préserver le commerce du polythéisme sans connaissance de cause. Et donc le fait de vouer toutes les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, de préciser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés, c'est le sens de la ilaha illallah. Et les polythéistes, donc les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le savaient bien. C'est pour cela qu'ils ont dit, a-t-il réduit toutes les divinités à une seule, c'est quelque chose de grand, de demain. Et donc voilà la base de la religion sur laquelle elle repose. Le fait de vouer toute forme d'adoration à Allah et à personne d'autre. Comme on voit dans le hadith de Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, c'est-à-dire en Sud de l'Arabie. Il lui a dit que la première des choses à laquelle il invite soit le fait de dire la ilaha illallah dans une version, dans le fait que inviter au fait de n'adorer personne d'autre qu'Allah. Si c'est la religion de pureté, et les arguments des polythéistes a été de dire que ces éléments qu'ils adorent, ces statues qu'ils adorent, ne sont finalement que des intercessions, que des intercesseurs, des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, mais les textes sont bien nombreux pour refuser cela. Et cet argument. Toutes les personnes qui appellent au monothéisme, de l'histoire se sont trouvés confrontés à des ennemis et des ennemis parmi les êtres humains et des ennemis parmi les diables parmi les villes qui se suggèrent mutuellement des pseudo-arguments, des fausses argumentations, des ambiguïtés pour contrer l'effort accompli par ceux qui suivent le prophète pour propager ce monothéisme. Cela a eu lieu tout au fil de l'histoire. Il est donc important de connaître quels sont ces faux arguments pour pouvoir les réfuter. Et donc les savants ont donné de l'importance à ce sujet, c'est de réfuter et de répondre aux fausses argumentations. Pseudo preuve. Et parmi ces savants, il y a le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, qui est apparu à un moment où les gens étaient plongés dans le polythéisme sous différentes formes. Ils se sont remis à adorer des éléments de la nature, comme les arbres, ou à adorer des êtres humains. Et ils étaient même soumis à des épreuves, comme un homme qui était aveugle, qui s'appelait Samson, et qui disait aux gens, donnez-moi de vos biens, de vos richesses, sinon il va vous arriver tel et tel malheur. Et effectivement, ceux qui refusaient étaient frappés de certains malheurs. C'était une épreuve à laquelle ils se sont trouvés soumis. Et peut-être bien également qu'il était avec les diables qui vivaient dans cette zone. Et les gens qui tiraient profit de ce polythéisme, qui en vivaient, se sont trouvés donc confrontés aux gens qui appellent le terrorisme. Ils se sont donc opposés à lui et ont cherché à dénigrer son appel et l'effort qu'il fournissait. Comme cela est le cas pour tous ceux qui suivent les prophètes, qui se trouvent confrontés à des gens qui s'opposent à eux. Voilà. Voilà pourquoi il a rédigé ce livre, nommé Esh Shubhat, c'est-à-dire dissipation de certaines ambiguïtés. Et donc, dans ce livre, il nous apprend notamment que chaque fois que le polythéisme est apparu sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messages. Comme cela fut le cas de Noé, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les Arabes, se sont mis à adorer des pierres. Pour rappeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à préciser le monothéisme relatif à l'adoration, le Tawhid et le Uluhiyya. Car le monothéisme relatif au statut de Seigneur, c'est-à-dire à la Seigneurie, à l'Uluhiyya, ce monothéisme ne suffit pas. Quelle est la différence entre les deux? Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique de par ses actes, c'est-à-dire qu'il est le seul à créer, le seul à donner, le seul à diriger le monde, ça peut être un roubouille, c'est-à-dire considérer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul à diriger ce monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut également préciser le monothéisme concernant l'adoration, c'est-à-dire vouer toutes ces adorations, quelles que soient ses formes, à un seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et qui ont été déclarés comme étant polythéistes, donc non musulmans, savaient bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul Seigneur, il était le seul à créer, il était le seul à diriger le monde, il était le seul à donner à chaque créature sa subsistance. Et cela n'a pas suffi à faire d'eux des musulmans. Et le problème c'est que même si, dans certaines de leurs adorations, ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala purement et exclusivement, mais dans d'autres formes d'adoration, ils adoraient d'autres divinités. Cela a donc été la cause pour laquelle ils n'ont pas été considérés comme musulmans. Il est donc étonnant de voir certaines personnes qui se disent musulmanes sans même savoir quelle est la base de la religion à laquelle ils se réfèrent et qu'ils prétendent à adopter. Et donc celui qui apprend cet élément, parce que il ne suffit pas considérer dans l'ordre un Ta'ala et le seul Seigneur, et que nous aurons la foi que lorsque toutes nos adorations sont vouées à l'ordre un Ta'ala, et que beaucoup de gens croient avoir compris l'islam, alors qu'ils en ignorent la base, tout cela nous fait prendre conscience qu'être monothéiste réellement est une énorme faveur et un bienfait considérable, qui fait que cela de nous des personnes heureuses de connaître le monothéisme et de l'appliquer et animées d'une joie à ce sujet. D'une joie qui est également mêlée d'une crainte de perdre sa saveur et donc de redouter de quitter cette saveur vers la tête, vers la nature. Allah subhanahu wa ta'ala pour une raison sage, a fait en sorte que tous les prophètes ont eu des ennemis et que tous les alliés d'Allah qui suivent ces prophètes aient également des ennemis parmi les ethnies et parmi les djinns. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'Allah défend religion. Ses ennemis s'en prennent à la vérité en mentant à son sujet ou en falsifiant à son sujet ou en utilisant des expressions trompeuses afin de détourner les gens de cette vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala défend sa religion et accorde la victoire à ses prophètes et aux croyants, sur terre et dans l'au-delà. Cela peut se manifester par une victoire suite à un conflit armé ou une victoire sur la scène du débat et de l'échange d'arguments. Allah reprend en charge la défense de ses amis. C'est pour cela que les amis d'Allah ne doivent pas perdre patience si cette propagande anti-islam, anti-monothéisme est en route ou est en marche. Par des moyens variés aujourd'hui, bien plus que hier, comme dans certains sites où on combat le monothéisme, ou par des SMS, ou dans la presse, ou par des agences de presse propagandistes. Il ne faut pas perdre patience si cela arrive, car c'est tout à fait normal. Et c'est dans la logique des choses. Et cela vient de l'ennemi, le diable, qui a juré de s'opposer, de se tenir sur la voie de la vérité pour empêcher les gens de la suivre. Mais cet ennemi ne peut rien du tout contre ceux qui s'en remettent Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'en remettent au texte au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ces gens-là, c'est comme manigance, le diable est faible. Il n'aboutit à rien. Cependant, le problème réside dans deux éléments. Le premier, c'est lorsque les savants baissent les bras et n'exposent pas assez clairement la vérité. Ou, deuxièmement, lorsqu'ils participent au débat et à ce conflit entre la vérité et le faux, lorsqu'ils participent des gens qui ne sont pas aptes à le faire. Il faut savoir une chose. Les personnes qui veulent intervenir dans des débats sur des sites, par exemple, doivent être solidement armé d'arguments. Celui qui s'expose dans un conflit et entre sur le champ de bataille sans armes, il ne devra s'en prendre personne. En sachant que tout faux argument, même moderne, a toujours une réputation dans le Coran. Cela fait partie des merveilles. De son caractère inimitable. Toute personne qui critique l'islam ou une des lois de l'islam, sa réputation à cette personne se trouve en parole. On avait déjà dit que ces traductions seraient réduites, les résumés consistent notamment à ne pas traduire les versets et les hadiths, mais le sens. Comment répondre aux faux arguments? Il y a deux manières. Une manière générale et globale, qui consiste à savoir que tout faux argument, toute ambiguïté, se base sur des textes équivoques, c'est-à-dire qu'il laisse la place à diverses interprétations. Et la réponse est qu'il y a des textes équivoques, qui laissent la place qu'à une seule interprétation. Et donc, il faut ramener les premiers au deuxième. Également, celui qui apporte un faux argument, comment accepter son argument, seul et unique, et délaisser des dizaines, voire des centaines de faux arguments qui disent le contraire de ce qu'il cherche à affirmer. Par exemple, ceux qui disent qu'on a le droit d'invoquer les prophètes, après leur mort, parce qu'ils ont une place importante auprès Alors moi, la réponse sont la multitude et la multitude du texte qui mentionne que l'intercession est conditionnée et que c'est à moi qui appartient et qu'il ne l'accorde que ce qu'il veut. Également ceux qui n'ont que faire du respect des vies humaines et qui appellent donc, au meurtre injustifié en se basant par exemple de percevoir tout le mystifié, tuer les polythéistes. Disons ce texte signifie bien sûr quelque chose, mais il y a d'autres textes où on a un intérêt où le prophète a accordé l'asile à tout polythéiste qui la demande. D'autres textes, le prophète en scène dit de dénoncer les accords avant de s'en prendre au polythéiste. Et ensuite, il y a les réponses détaillées à chaque, concernant chaque ou argument ou chaque ambiguïté, comme celle que nous venons de citer. Certaines personnes disent nous invoquons d'autres qu'Allah afin que ces personnes interviennent en notre faveur, La réponse, encore une fois, c'est que cette intercession est un droit qui appartient à Allah, et il faut d'abord qu'il en donne la permission à celui qui intercède pour que cette intercession soit utile. Il y a certaines personnes qui disent nous avons le droit de commettre du polythéisme. Première question à leur adresser, c'est définis-nous le polythéisme. En fin de compte, cela signifie qu'ils ont le droit de pratiquer le polythéisme. Mais avant cela, on leur dira définis-nous le polythéisme. S'ils ne savent pas le définir, ça va, on lui dira tout simplement que ce que tu fais est une adoration et que cette adoration est vouée à un autre qu'Allah et cela est le polythéisme. Il y a un autre cas où certaines personnes disent que le polythéisme qui est interdit et qui est blâmé, c'est le fait d'adorer des statues. Alors que nous adorons des êtres vivants, des êtres qui ont vécu, des êtres humains. La réponse c'est que Allah a blâmé les idolâtres qui adorent des statues. Parce qu'ils ont dirigé une forme d'adoration en l'autre qu'Allah. Et c'est également le cas pour vous qui adorez les êtres humains. Un autre point abordé dans ce livre est que le polythéisme commis par les polythéistes modernes, contemporains, est fier. Le polythéisme des anciens. Car les anciens adoraient d'autres divinités qu'Allah, mais leur arrivée, parce qu'ils étaient dans un état de détresse, comme lorsqu'ils étaient en pleine mer, dans une tempête, il leur arrivait d'adorer Allah et uniquement Allah, de manière pure et exclusive. Et ensuite, lorsqu'ils remettaient les pieds à terre, ils se remettaient à commettre. Alors que les polythéistes modernes et actuels qui commettent ce péché dans toutes les situations. Et également, les anciens polythéistes vouaient des formes d'adoration aux statues, par exemple, parce qu'elles représentaient des gens qui avaient une importance, des gens de bien, des gens respectables, comme elles l'aident. Qui est une statue qui est adorée à Paris, qui n'est en fait que la représentation d'une personne qui offrait de la nourriture aux pèlerins. Et ensuite, il y a eu une statue à son effigie, pour se rappeler de lui, et ensuite les gens, au fur et à mesure, se sont mis à l'adorer. En revanche, les polythéistes actuels adorent des gens qui n'ont aucune importance et qui n'ont aucune valeur, il y en a certains qui adorent des gens qui n'existent même pas. Une autre ambiguïté consiste à dire comment passer de polythéiste à une personne qui prie. À la prière, comment dire que c'est un polythéiste? La réponse est qu'il a commis un acte de polythéisme. Celui qui commet un acte de polythéisme est un polythéiste. Et si celui qui renie une partie de la religion relative aux lois, comme le jeûne ou la prière, celui qui renie cela est un kafir. Que dire alors celui qui renie la base même et le fondement même de la religion, s'il est fait de l'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, il a cité l'exemple de différents compagnons qui ont agi de la sorte parce que certaines personnes ont abandonné des éléments religieux. Et il y a à ce sujet l'exemple de Zayd ibn Amr. C'est-à-dire que certains, parmi les compagnons, lorsqu'ils sont passés à côté d'un arbre, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accrocher leurs armes à cet arbre, comme les polythéistes avaient l'habitude d'accrocher leurs armes à un arbre, afin que leurs effets soient bénis et soient plus efficaces. Ces compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a que c'était une forme de polythéisme. Pour prendre ce hadith, premièrement, que n'importe qui parmi nous peut commettre un acte de polythéisme sans le savoir. Premièrement. Et deuxièmement, que si une personne prononce une parole de méfiance, une parole de polythéisme, sans savoir, plus qu'on attire son attention sur le fait que c'est du polythéisme qu'il vient de dire, qui se reprend sur le champ, cela n'a pas d'influence sur sa religion. Un autre argument consiste à dire de la part des polythéistes, mon cœur est habité par le polythéisme. Et donc, je peux faire ce que je veux avec mes membres. La réponse est que le polythéisme, le monothéisme, ok, doit se manifester dans le cœur, par la langue, dans l'expression, et également par les membres, dans les actes. Le monothéisme doit se manifester dans tous ces aspects. Ensuite, il y a eu un passage où le chef a demandé au frère qui était là de lui donner cet objet. Et donc, il a demandé l'aide de quelqu'un. Il a fait allusion à un argument avancé par certains politistes qui disent: vous demandez de l'aide aux gens, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas demander de l'aide à d'autres personnes après leur mort? La réponse est que il y a une différence entre demander de l'aide à quelqu'un qui peut nous aider et demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas nous aider. Et ces gens qui sont morts ne peuvent pas nous aider. À ce moment-là, il a dit à quelqu'un: tu dois apprendre l'arabe. Parce qu'il a parlé, il n'a pas compris ce que le chef lui a dit. Tu dois apprendre l'arabe au moins, sur ce que tu connais ton problème. Il y a également un faux argument qui consiste à citer l'épisode où Ibrahim a été jeté dans le feu allumé par les polythéistes, voulu se débarrasser des Brésiliens en les jetant en fait catapultant dans un brasier. Et lorsqu'il était catapulté, au moment où il était dans le ciel, il lui a proposé son aide. Il a dit, je n'ai pas besoin de toi. Il a dit, au revoir, ainsi de suite. Cela n'est pas un argument. Parce que Jibril lui-même s'est proposé son aide. Il a proposé son aide. Il a refusé cette aide. Pourquoi? Pour s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est encore plus fort. Le fait de s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et de tomber dans le feu sans être brûlé, cela est un argument ou un signe encore plus convaincant de la véracité de son message que si Jibril l'avait secouru. Concernant les personnes qui disent dans mon cœur, il y a le monothéisme, donc ce n'est pas grave, c'est le fait. J'ai inversé. Tout à l'heure, je voulais dire, il ne suffit pas de dire la ilaha illallah et de commettre du polythéisme et de dire que parce que je dis la ilaha illallah, ce n'est pas grave ce que je fais comme polythéisme. Car la ilaha illallah doit répondre à certaines conditions. Celui qui commet du polythéisme n'a pas rempli ces conditions. La ilaha illallah, la plus de le dire, ne lui est plus utilisé. Disons donc que le monothéisme doit se manifester dans le cœur, verbalement, et parler des gestes et mouvements. Le fait de savoir et de connaître le monothéisme dans son cœur ne suffit pas. Car les juifs connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Et ça ne suffit donc pas. Le fait de savoir. Et les hypocrites, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savaient qu'ils disaient la vérité, et même plus, ils ont pensé à Allah, mais le faire loin uniquement. Il faut donc que soit joint le cœur, la langue et le membre, le corps. Et Allah nous apprend à cause d'une une parole de méfiance, comme disent certaines personnes, lorsqu'ils se sont moqués du prophète Allah et des compagnons, en disant qu'ils aimaient la nourriture. Les gens qui ne pensent qu'à manger et qui sont heureux en face de l'ennemi, il y a un verset descendu par Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'ils ont renié parce que photo bada imanikum après leur foi, à cause d'une parole. Et donc, la connaissance ne suffit pas avec le cœur. On arrive donc à la fin du livre. Si doit être continué pour répondre de la même manière à tous les faux arguments qui continuent à défiler au fil de l'histoire. Et il est de coutume de dire que nous sommes à l'ère de la science, nous sommes à l'époque de la science. Peut-être concernant la science dans le droit de la religion, nous sommes à l'époque de l'ignorance et des ignorants. Même si certains médias prétendent exister et informer, ils informent, mais en utilisant l'intoxication, en déformant la réalité, ou en la cassant, ou en organisant des débats, des pseudo-débats, entre une personne qui se trompe, contre une personne qui se trompe également, mais d'une manière différente. Ou alors, entre une personne qui se trompe, une personne qui défend la vérité, mais qui est faible, soit parce que c'est un ignorant, soit parce qu'il est incapable